Au cinéma Empire avec le démiurge des lieux, Didier Juchua, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve non pas pour parler cinéma ici, mais cinéma au Bain des Paquis avec Clap sur les monts, volet 3, sur les 5 qui sont annoncés. Il y en aura bien 5, n'est-ce pas?
Il y en aura bien 5, on a même augmenté notre banque de données au sujet des films tournés sur le Léman. On est à près de 130 films maintenant, dont on a visionné à peu près une centaine.
Et justement, sur ces films, troisième volet, Au Bain des Paquis, depuis quelques jours déjà et encore plusieurs semaines, vous avez sélectionné plusieurs affiches. Quel a été le thème unificateur pour sélectionner ces affiches qui sont exposées actuellement?
Alors, le sujet de Clap sur Léman, c'était évidemment de repérer ces films tournés au bord du Léman, mais aussi, au sein du musée du Léman à Nyon, de créer un fonds en rapport avec ces films, ce qui fait que nous achetons de manière active des images, des scénarios, des autographes, des affiches du monde entier. Donc l'idée, c'est toujours de montrer qu'un film voyage, et c'est pour ça que, par exemple, on a l'affiche du film de Jean-Luc Godard, Sauf qui peut la vie, qui à l'époque avait été acheté par American Zoetrope, par Francis Ford Coppola, pour une distribution aux États-Unis. Et c'est l'affiche américaine que nous montrons dans le troisième volet de l'exposition Clap sur le Léman.
Justement, dans ce volet, Clap sur le Léman 3, Dizushua, il y a un film provocateur, irrévérencieux. Vous voulez nous en parler?
Tout le cinéma est provocateur et souvent irrévérencieux. Le plus provocant de cette série, à mon avis, c'est le film de Francis Giraud, Le Bon Plaisir. Le Bon Plaisir, d'après un roman édité aux éditions Mazarine, un roman de Françoise Giroud. Et Françoise Giroud, bien avant Jean-Édouard Nalier, évoque, on le sous-tend, l'affaire Mazarine-Pinjot, c'est-à-dire que ben voilà, dans ce film assez délicieux et assez tortueux, on se rend compte que le président a un enfant illégitime.
Voilà, une affaire connue maintenant, mais à l'époque, évidemment, c'était camouflé, et peut-être incamouflé d'ailleurs.
Alors, à l'époque, c'était totalement camouflé. Quand on a vu le film, quand il est sorti, 1984, si je ne m'abuse, personne n'imaginait que François Mitterrand puisse avoir un enfant hors mariage caché. Bon, en même temps, personne n'imaginait que François Mitterrand avait été proche de la cagoule et proche de la droite la plus extrême dans ses jeunes années. Donc les hommes politiques ont leur part d'ombre. Et finalement, le grand socialiste qui était François Mitterrand était un socialiste sur le tard.
Voilà, un socialiste, en tout cas, peut-être opportuniste. D'ailleurs, beaucoup d'artistes, on pense à toute l'équipe d'Agathe Film, dont Guédiguian disait clairement qu'à peine il a été élu, ils ont tout de suite été déçus en comprenant que c'était surtout pour accéder à la plus haute marche du gouvernement. On retrouve des noms vraiment importants, Jean-Paul Melmondo, Jean Becker, Gene Seberg, qui sont réunis autour d'un film.
Un film qui, pour moi, c'est un film qui est cher à mon cœur parce que j'ai découvert lors d'un voyage en Guadeloupe au mi-temps des années 1970 dans le village du Moule, aux Caraïbes, Copatel. On organisait régulièrement des séances de cinéma et j'ai vu sur pellicule Échappement libre, donc de Jean Becker, en effet, avec Belmondo et Gene Seberg. Pour un film très différent, évidemment, d'À bout de souffle, mais qui est un film tout à fait délicieux et qui est assez peu référencé, assez peu connu.
On a d'autres films qui, d'ailleurs, selon les affiches, est intitulé La motocyclette ou La fille à la motocyclette. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Didier?
C'est un film très original. C'est un film de Jack Cardiff. Jack Cardiff était un très grand réalisateur de la photographie. Très grand chef opérateur, très grand directeur de la photographie. Et là, il tourne un film en tant que réalisateur et il fait une recherche picturale à base de filtres qui fait que ce film, à l'époque, était très moderne et aujourd'hui paraît, en effet, avoir bien vieilli. Il rappelle un peu les tripes au LSD, tout ça. Donc c'est un film très original qui met en scène deux noms très détonnants, Alain Delon dans un film en anglais et Marianne Faithfull, l'égérie des Rolling Stones, l'éternel Sister Morphine, la fille à la motocyclette ou la motocyclette. C'est un film assez étrange qu'on n'a plus vu depuis longtemps non plus et dont certaines parties sont tournées au bord du Léman.
Alors Didier, je rebondis sur vos propos, pas besoin de LSD pour passer 10 ans plus tard, là on est en 67, on passe en 77 avec Luis Buñuel, cet obscur objet du désir.
Alors Luis Buñuel est venu à Lausanne Ouchy avec Fernando Rey tourner donc cet obscur objet du désir. C'est un film assez étonnant parce que le film était commencé par une actrice, le rôle était prévu pour une actrice, Isabelle Huppert, pour ne pas la nommer. Et en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu, c'est la magie du cinéma. Et là, le rôle c'est le surréaliste Buñuel, on le retrouve ici, le rôle de principal féminin est composé de deux femmes, dont l'une est Carole Bouquet. Carole Bouquet qui était donc à l'époque versée dans la mode, mannequin vedette, et qui fait sa première apparition au cinéma dans un double rôle où elle joue le rôle de la moitié du personnage principal, voilà, du désir.
Du désir, voilà. Le désir est multiple, c'est bien connu. On passe ensuite en 1980 et on retrouve entre autres Isabelle Huppert, dont on vient de parler, mais aussi Nathalie Baye.
Alors c'est aussi un film qui est très cher à mon cœur parce que c'est l'un de mes mentors, l'un de mes associés dans Procitel, Yves Perrault, qui a produit Sauf qui peut la vie à l'époque, Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard, donc qui est un peu le retour au cinéma plus commercial de Jean-Luc qui avait fait un détour par Grenoble avec son complice dans la vidéo expérimentale, et il revient au cinéma donc avec ce film au titre énigmatique, au casting étincelant, et qui célèbre les retrouvailles de Jean-Luc Godard, de la pellicule et du cinéma. Et c'est un film qui reste à l'heure d'aujourd'hui encore très en avance sur son temps, très culotté, et donc acheté par Francis Ford Coppola pour la diffusion aux États-Unis. Un film qui a fait le tour du monde et qui a signé le retour de Jean-Luc Godard pour une nouvelle vie au cinéma.
Jean-Luc Godard, qui est emblématique de justement ces claps sur l'aimant, puisque lui vivait à Rolles, sur les rivages du Léman, où il se promenait régulièrement avec son chien. Autre hommage à un cinéaste suisse, Francis Reusser, en 1981.
Alors Francis Reusser est quelqu'un que j'ai bien connu, que mes associés ont côtoyé, ont produit. Seul de Reusser, avec une photo absolument exceptionnelle de Renato Berta, le grand chef opérateur suisse, est un film qui est vraiment inscrit dans le Léman. C'est un film tout à fait lémanique. Francis Reusser était un homme extraordinaire. Il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Il était un homme extrêmement chaleureux. Et ce film seul montre un Léman un peu froid avec des acteurs exceptionnels. Nils Arestrup, Michael Lonsdale et Christine Boisson.
Que du beau monde.
Voilà. Et un film qu'on a très peu vu parce que ça n'a pas été un succès. Mais bon, le succès, l'insuccès sont des choses qui sont finalement assez... on va dire...
Subjectif.
Voilà, c'est subjectif et ça va, ça vient. Seul est un film que la Cinémathèque suisse a restauré il n'y a pas très longtemps, vu à l'heure d'aujourd'hui, prend toute son importance, même si à l'époque, personne ne l'avait vu, en effet.
Alors Didier Huchat, toujours question de plaisir avec vous. 1984, Le Bon Plaisir.
Le Bon Plaisir, c'est ce film donc de Francis Giraud, un homme de cinéma très important dans le sens qu'il était prof aussi. Bon, il est mort assez jeune. Le Bon Plaisir, c'est d'abord ce roman de François Giraud, publié aux éditions Mazarine, qui raconte quelques années, même plusieurs années avant que ça ne sache, l'aventure de François Mitterrand, de Mazarine Pinjot. Un film très important, tourné au Clos de Sadé, proche de Nyon, avec un casting totalement étincelant, Michel Serrault, Jean-Louis Trintignant, Michel Auclair. Il y a des gens vraiment étonnants dans Le Bon Plaisir. Et c'est un film qui, quand on le voit aujourd'hui, sachant tout ce que l'on sait de l'histoire des histoires sombres de François Mitterrand, prend tout son sel.
Voilà, il y a une lecture différente et beaucoup plus documentée. 1988, Le plaisir est léger, avec l'incontournable légèreté de l'être.
Alors, c'est une adaptation donc, de Milan Kundera, un livre phare, un livre de chevet pour certaines personnes qui ont un peu mal supporté son adaptation au cinéma. C'est une adaptation qui a été faite avec beaucoup de soin, que le grand producteur Saul Sands, producteur de Amadeus, entre autres, a porté pendant de nombreuses années. C'est un film donc, qui a été tourné à Genève, avec Daniel Day-Lewis et Juliette Binoche, Lina Olin également, une très belle évocation de l'insoutenable légèreté de l'être, même si ce roman est difficilement adaptable au cinéma. C'est un très grand film donc, de Philippe Kaufmann, qui avait réalisé un film assez étonnant, The Right Stuff, l'étoffe des héros, un film d'action spectaculaire, alors que l'insoutenable légèreté de l'être est une sorte de promenade européenne avec de gros moyens, mais assez intimiste, somme toute.
Et une incroyable distribution, comme vous le mentionnez. Toujours en 88, on part du côté de l'Espagne, avec Gonzalo Suarez, si je ne m'abuse.
Voilà un film totalement inconnu. Ce film de Gonzalo Suarez est raconte l'histoire de Lord Byron, de Mary Shelley. Hugh Grant, un jeune Hugh Grant, joue... un des rôles principaux. C'est un film qui n'a pas bonne réputation, qui a été tourné au large du château de Chillon, au large du château de Chillon et au bord du Léman.
Mais sur les traces de Byron.
Sur les traces de Byron, mais qui définitivement n'est pas un film international. Il a été très très peu montré en dehors de son pays de production, qui est l'Espagne. C'est un film assez confidentiel.
Alors, hommage à une autre figure qui a fini ses jours au bord du Léman, précisément à Corzo, Corzier-sur-Vevey, 1990, un film de Richard Attenborough qui rend hommage à Chaplin.
Alors, le film sur Chaplin, Sir Richard Attenborough avait ce projet. C'est un film qui, lorsqu'il a été annoncé, suscitait beaucoup d'intérêt. Richard Attenborough sortait de Gandhi. On avait donc choisi Robert Downey Jr. Pour incarner le jeune Charlie Chaplin qui, par la magie du maquillage, finalement, en fait, couvre voilà, de la jeunesse du cinéma muet jusqu'au décès de Chaplin au-dessus de Vevey.
Au
domaine de Ban, à un âge avancé. C'est un film assez académique, mais qui est très bien réalisé. Et c'est vrai que Robert Downey Jr. était complètement habité par le rôle. C'est un film qu'on a montré à l'époque au Festival des films de comédie de Vevey. La famille Chaplin, notamment Eugène Chaplin, qui est ingénieur du son, soutenait ce projet. Et c'était assez émouvant de voir Robert Downey Jr. qui traversait une passe un peu difficile, être dans les traces de Charlot sur les bords du Léman.
Alors, au bord du Léman, il peut y avoir des mirages. 1992.
Ça, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur parce que, voilà, Le Mirage, d'après Thomas Mann, c'est un film de Jean-Claude Guiguet. Malheureusement, Jean-Claude Guiguet, aucun de ses films n'a été montré en Suisse. Peu de ses films ont été vendus à l'étranger. Jean-Claude Guiguet est un cinéaste proche de Paul Vecchiali et de Jean-Claude Biette. Ces gens qui faisaient du cinéma en diagonale du nom de leur entreprise de production, Diagonale Diffusion. Jean-Claude Guiguet a fait quelques films intimistes. C'est quelqu'un qui était proche du lac parce qu'il possédait une maison de famille au bord du Léman. Et il est venu tourner cette adaptation de Thomas Mann un peu en famille durant un été. C'est un film délicieux qui capte bien l'atmosphère lémanique, à mon avis. Et puis, Jean-Claude Guiguet, Jean-Claude Biette et Paul Vecchiali récemment nous ont tous quittés. Donc, c'est un peu cette forme de cinéma artisanal où les techniciens étaient les mêmes, où les comédiens passaient d'un tournage à un autre et où tout d'un coup, Paul Vecchiali devenait le producteur de Jean-Claude Biette ou devenait l'assistant réalisateur de Jean-Claude Guiguet. Ces gens travaillaient en famille et faisaient du cinéma en famille. Et moi, c'est une période qui m'a beaucoup plu.
En tant que cinéphile et fin connaisseur du 7e art, je comprends que ça vous plaise. D'ailleurs, à ce propos, vous nous présentez un des panneaux de la trilogie de, on va le dire en polonais, Czestochowski, Rouge. 1994.
Voilà, Marin Karmitz, producteur de Kieslowski, donc il y a mis les moyens à disposition aux réalisateurs polonais pour faire trois couleurs, bleu, blanc, rouge, avec opérateur, un triptyque fabuleux avec le même opérateur, avec le même metteur en musique. Les films sont très différents les uns des autres. Rouge est assez différent des deux autres films. Jean-Louis Trintignant y est formidable. C'est un film qui, quelque part, est tourné à Genève, mais ne capte pas tellement l'esprit local. Kieslowski est vraiment un cinéaste international. Il a disparu peu de temps après, donc son œuvre s'est ainsi trouvée tarie. Mais ces trois couleurs, et rouge notamment, devaient figurer dans le panel que nous proposons, puisque le film a été tourné en campagne genevoise, même si le rapport avec le lac est assez ténu, somme toute.
Alors Didier, au bord, sur les rivages du Léman, il peut y avoir aussi des agents secrets, 2004.
Moi j'aime beaucoup le cinéma des Schoendorfer, père et fils, hein, Pierre Schoendorfer, auteur du Crabe Tambour, de la 317e section, formé au cinéma des armées. Son fils fait aussi du cinéma et son premier film Agent Secret, son premier film Scène de Crime était absolument formidable. Il a continué dans une veine extrêmement ambitieuse avec un truand au pluriel qui emmenait Philippe Cobert à des sommets. Agent Secret est un film beaucoup plus commercial où on trouve Vincent Cassel et Monica Bellucci en agents de haut vol. Il y a une scène mémorable d'hélicoptère au large d'Ouchy, absolument fascinante. Moi, j'aime beaucoup le film, mais c'est vrai qu'il est moins personnel peut-être que les deux autres films de Frédéric Schoendorfer.
L'affiche suivante, Didier, en 2011, Contagion, Steven Soderbergh, c'était une évidence aussi pour ce volet.
Alors, les rapports avec Steven Soderbergh et l'Europe sont nombreux. Plusieurs films produits, scénarisés, réalisés par Steven Soderbergh ont des liens avec Genève. Là, Contagion, c'est un peu le Covid, mais le Covid virulent ou je ne sais pas quelle maladie tropicale. C'est un virus mortel et donc il s'agit de prendre contact avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc Genève est évidemment un lieu de chute et ce film, cette production américaine importante, en effet, flirte avec la région genevoise, avec cette proximité de l'OMS et quelques beaux plans lacustres, on va dire. Voilà.
Didier, je ne sais pas s'il s'agit d'un virus qui est très contagieux, mais en tout cas, en 2013, vous nous proposez L'amour est un crime parfait, Larieux.
Alors, les frères Larieux sont des gens très originaux, très talentueux. Ils nous ont montré des coins de France souvent reculés. Et là, en fait, ils ouvrent leur film avec un très beau casting. Mathieu Amalric, Karine Viard, qui est une habituée des frères Larieux. On ouvre le film dans le bâtiment iconique de l'EPFL, devenu le Rolex EPFL quelque chose. Et on voit Mathieu Amalric qui donne un cours magistral et on a le Léman en toile de fond. Puis après, voilà le film par ailleurs, mais tout ce début du film des frères Larieux est très lémanique et le building de l'EPFL est magnifié dans une mise en scène très élégante.
Il me semble qu'on termine avec Presque, un film qui est sorti récemment, Bernard Campan, Alexandre Jolien, avec cette amitié un petit peu ambiguë et beaucoup de scènes aquatiques, puisqu'on est d'abord au bord du Léman, on finira dans le sud de la France dans une grande baignade.
C'est un très beau film. Bernard Campan est un auteur et un comédien très attachant. C'est donc l'un des trois inconnus.
Les inconnus, voilà. Didier Bourdon et Pascal Légitimus.
Didier Bourdon et Pascal Légitimus ont continué dans la comédie. Bernard Campan est quelqu'un de très d'assez secret et de très profond quelque part. Ses choix au cinéma post-inconnu sont assez remarquables. Là, on a un film, très jolie histoire, avec ce jeune garçon, cette amitié avec ce jeune qui est donc défavorisé par la vie. Et donc, c'est un peu... Oui, le début se passe sur le Léman, et puis on quitte le Léman assez rapidement, mais les premières scènes sont en effet très lémaniques. Presque était un grand succès, un film qui a bénéficié d'un bouche-à-oreille de grande qualité, ce qui a permis au public de le découvrir, et on ne peut que s'en réjouir.
Et avec des valeurs aussi, il y a à la fois la poésie, mais aussi beaucoup d'humanité, voire d'humanisme.
Oui, Presque est un film, humaniste. L'humain joue le premier rôle, le Léman ou la baignade en Méditerranée jouant les seconds rôles, on va dire.
Didier, cette exposition est à voir jusqu'à quelle date ? Et est-ce qu'il y a des animations autour de l'exposition proposée au Bain des Paquis ?
Alors, l'exposition Clap sur Léman, en fait, est une exposition qui est une exposition d'extérieur, qui se trouve actuellement accrochée donc, au Bain des Paquis à Genève, qui ensuite va poursuivre sa route en direction de Ivoire et ailleurs. Je crois que la partie 2, peut-être les deux premières parties sont à voir à Ivoire bientôt. C'est une exposition itinérante. Une chose est certaine, c'est que quand on aura fait les 5 volets, on retrouvera l'ensemble de l'exposition dans la cour du musée du Léman à Nyon. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Et on aura aussi un ouvrage à paraître aux éditions Glénat qui reprendra toute cette filmographie lémanique qui s'est établie en dilettante, comme ça, par des chemins de traverse. Parce que simplement, tout d'un coup, quelqu'un vous dit « Ben voilà, j'ai vu un plan tourné au bord du Léman dans tel film. » Et puis, certains souvenirs nous reviennent. Et puis maintenant, on en est un peu à exhumer des films exotiques, des films japonais, des films indiens, etc. Donc je pense que notre filmographie lémanique sera quasi exhaustive une fois qu'on aura atteint le 5e volet de l'exposition.
Comme quoi, Didier, les Bollywood ne vont pas que au sommet du Cervin, ils vont également sur les rivages du Léman. Et donc on imagine que L'amour du monde sera dans votre collection.
Probablement. Ils viennent quand même beaucoup moins au bord du lac qu'au pied du Cervin.
Quand même, ils sont vers Alamand.
Oui, c'est vrai.
À méditer.
À méditer.
Merci Didier Joshua. Merci. Et bon succès pour l'exposition.
Merci à vous. Merci de vous y intéresser.